Et bonjour tout le monde, alors je vais vous faire un petit point audio. Alors ça va pas être une lecture du document, bien sûr. Là, cette fois-ci, je me suis amusé à écrire un peu plus que les dernières fois, pour ceux qui avaient déjà vu les retours des courses précédentes. Parce que j'étais très inspiré, voilà. Et du coup, là, je vais juste survoler avec vous le document pour ajouter peut-être des commentaires à l'oral de ce que j'ai écrit. Donc j'ai fait une partie 1, si tu veux, avec les doutes d'avant-course, parce que j'ai quand même pris le départ en sachant pertinemment que j'étais pas en forme. Donc là, tu vas découvrir pourquoi, parce que à l'entraînement, quand je partais courir, bah, j'étais un peu en mode casquette verte, tu vois, à me plaindre sans arrêt, la hanche droite qui tirait, les deux ischio-jambiers, voilà, tout ça, c'était des conséquences du dernier survivant. Le manque de forme, en fait, purement physique, hein, qui était criant. À chaque fois que je faisais une sortie vélo, bon, j'étais loin de mes temps de passage. Même quand tu fais une sortie vélo à la cool, d'habitude, tu verras si tu fais souvent les mêmes circuits. En fait, sans faire attention, tu passes quasiment tout le temps aux mêmes heures, enfin à la même durée, aux mêmes endroits. Et la variation est très très faible. Et là, pour une sensation similaire, bah, j'étais vachement en retard. Quand j'ai eu mon capteur de puissance, bah évidemment, hein, le seuil, je pas arrivé à le tenir, puis la PMA, elle a été désastreuse, donc ça confirmait tout ça. Je parle également de blessure, puisque je me suis quand même tordu la cheville. Bon, bah ça, si tu veux, ça laissait pas présager une performance exceptionnelle, parce qu'à aucun moment j'allais pouvoir faire le bourrin en descente. Donc voilà, ça c'est tous les doutes d'avant-course, et puis après, bah, faut prendre le départ avec ça. Ce qui n'est pas forcément problème, hein, parce que sur l'ultra, il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais de là à se dire que j'allais faire la perf de la saison, il y avait quand même un gap. Alors après, ça s'est pas mal passé les 40 premiers kilomètres. Alors tu me diras heureusement, parce que si ça va pas dès le début, c'est quand même très 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 dur. Déjà que là, ça a été dur. Parce que j'ai réussi, comme aux Canaries, à faire un départ prudent. J'ai réussi. Enfin, j'ai vu mes limites, hein, de la cheville dans la première descente tout de suite. Et j'ai conclu, on va dire, cette première partie, ce premier tiers de la course relativement bien, parce que la grosse montée, qui était très très longue, hein, je crois qu'il y avait quasiment 900 mètres de montée après le premier ravito à Prades et la redescente jusqu'à Prades, qui pareil était très très longue, elle durait quasiment ouais, 14 km. Je l'ai très bien géré dans le sens où j'ai pas perdu de temps sur la tête de course. J'en ai même repris parce qu'en fait j'ai fait un petit popo au sommet tranquillement. Et puis après, du coup, j'ai repris une bonne minute ou deux dans la descente à un peu tout le monde. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en bas du ravitaillement, je sentais que ça tirait déjà. Et ça, c'est annonciateur de mauvaises choses. Tout simplement, quoi. Alors après. Partant de ce constat-là, si tu veux, je m'étais pas trop choqué parce que les deux personnes qui étaient devant à ce moment-là, tu le découvriras en lisant le document, étaient parties beaucoup trop vite. Samir était en grande forme finalement, mais l'autre, voilà, il a fini à Tataouine. Il a fini déjà, c'est beau. Donc j'étais assez serein sur le fait de les rattraper. Avec moi, les gars qui étaient avec moi, bon, ils étaient limite, hein, ils étaient plutôt derrière que devant. Et Aubin, qui était à mes côtés, bah, il se plaignait du ventre. Voilà. Donc là, je me disais, bah écoute, Hugo, tu vas te retrouver tout seul à la troisième place, puis bientôt tu vas revenir sur les deux premiers, quoi, qui sont partis trop vite. Et ça a duré quelques kilomètres encore, cette illusion. Et puis après, lorsqu'on est remonté, donc ça devait être le kilomètre 40, 45, là on a dû attaquer à remonter. Et là, j'ai vu que c'était pas terrible. Parce que Aubin, l'Italien, même un peu Sylvain, je crois, sont revenus au sommet alors que j'avais fait une bonne montée. Donc ça m'avait étonné. C'est à partir de ce moment-là où j'ai plus ou moins sombré. Parce que je sentais que mes douleurs articulaires me limitaient beaucoup dans l'effort. Parce que les autres revenaient alors que je pensais que j'étais bien. Voilà, si tu veux, c'est comme si à ce moment-là, j'avais tout à fait l'impression de rouler en voiture, mais avec le frein à main un petit peu mis. T'sais. Tu peux rouler avec le frein à main. Tu mets juste un petit cran, tu peux rouler. Bon. C'est un peu emmerdant, mais tu peux rouler. C'était un peu ma sensation. Et puis après, j'ai plongé, hein, à partir du kilomètre 50-55. Là, Aubin est parti devant. Derrière, je voyais que ça revenait. Ouais, là, psychologiquement, ça a été dur. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais faut se révolter un peu, faut y aller. Oui, mais si tu veux, le psychologique est lié au physique, et du coup, ça marchait pas. Donc je t'ai détaillé ça. toute cette descente aux enfers, hein, jusqu'à Saint-Jean-la-Champ, là, kilomètre 70, c'était vraiment compliqué. Et puis après, bah, je me suis servi quand même de ces séances de prépa mentale que j'ai faites l'an dernier. Je m'en suis rappelé, j'ai mis en place ce qu'on avait vu ensemble, et j'ai rebondi, je suis reparti de l'avant, j'ai regrappillé un peu de temps sur les deux premiers, Aubin et Samir. Et c'est là que tu vas voir la connerie. Alors, la grosse connerie, voilà, celle que je cite en audio, c'est qu'en fait, j'avais fait des pieds et des mains en amont de la course pour obtenir la trace GPX. Et ce que l'organisation avait convenu, c'était de la donner à tout le monde dans les 48 ou 24 dernières heures, de vous l'envoyer par mail ou SMS. Et comme ça, tout le monde pourrait la mettre sur la montre. Et personne n'aurait pu faire de reconnaissance avant, parce qu'on passe à énormément d'endroits, on passe dans les propriétés privées, qui d'habitude, voilà, c'est des champs avec des vaches. Donc, et si on donne la trace GPX avant, en fait, c'est malheureux, mais il y a un tout petit pourcentage de coureurs qui va quand même faire des recos, qui va quand même franchir les barbelés, qui va gêner les paysans dans leur travail. Et ces gens qui ont un comportement civique déplorable, et ben c'est à cause d'eux qu'on ne peut pas avoir la trace GPX en avance. Parce que moi, si on m'envoie la trace GPX en avance et qu'on me dit « surtout ne faites pas de recos parce qu'il y a des parties privées », ben, je ne fais pas partie de la classe des connards, et donc j'écoute. Et vu que les gens qui font les choses bien payent systématiquement pour ceux qui font les choses mal, ben voilà, vous avez une classe de connards qui, durant quelques années, ont effectué des reconnaissances dans les terrains privés, gênant donc les paysans, ceux qui travaillent ici, hein, parce qu'on ne travaille pas que dans des bureaux, on travaille aussi dans des champs pour vous nourrir. Et du coup, on ne peut pas maintenant avoir la trace GPX. Donc, j'avais dit à l'organisation, voilà, ce serait pas mal de l'envoyer aux gens dans les 24-48 heures avant. Ils m'avaient dit, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, puis ils avaient prévu de le faire. En fait, je me suis rendu compte qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais moi, ils me l'avaient envoyé quand même. Parce qu'en la demandant, ils m'ont dit, bah tiens, la voilà, et puis on s'occupe de faire un mail groupé pour tout le monde. Moi, je ne m'étais pas soucié du truc, j'avais mis la trace dans la montre. Et arrivé un peu après Saint-Jean-la-Champ, là, quoi, trois bornes après, sur un plateau, on part pour redescendre sur le pont d'Alera, je sais pas comment on prononce. Et en fait, à ce moment-là, on descend vraiment sur la droite, je ne me rappelle plus géographiquement ce que c'était, mais c'était la droite. Au lieu d'aller, la trace allait tout droit. Ça traversait une ferme et ça allait tout droit. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, le balisage, il emmène à droite. Alors j'enquille sur le balisage, je me dis, bah quand même, je vais suivre le balisage. Il doit y avoir un tout petit détour de la ferme et puis on doit repiquer la trace plus tard. Je continue, donc mon GPS m'indique que je suis sorti de la trace de 100 mètres, il m'indique que je suis sorti de la trace de 250 mètres, de 500 mètres, et là, quand il m'indique que je suis sorti de la trace de 1 km, je me dis, bon, Hugo, il y a un problème. En plus, à ce moment-là, en fait, j'étais en train de remonter. Je me suis dit, écoute, là, arrête-toi, appelle leur gars. J'appelle, il m'explique et tout. Pendant que je suis au téléphone, sur l'application Sunto, je prends une photo de où je suis avec le GPS. Je leur envoie, ils traitent le document, ils me répondent. Donc, si tu veux, l'appel a duré au moins 10 minutes. Hein. Et finalement, bah, ils ont conclu, ils m'ont dit, bah, écoutez, en fait, vous êtes bien sur le parcours. Simplement, on l'a changé. Donc là, bah, merci. En fait, au dernier moment, il y a eu une autorisation qu'ils n'ont pas eue d'une ferme. Et du coup, on est parti. En fait, on est descendu sur le pont d'Aléras. Et au lieu de traverser le plateau et descendre sur le pont d'Aléras, on est descendu, on est remonté un peu plus loin, on est arrivé au cul de la ferme comme on aurait dû arriver, et après on est vraiment descendu. Donc je suis très déçu parce que, bah, du coup, si j'aurais pas eu la trace, en fait j'aurais suivi le balisage et je me serais pas posé de questions. Mais vous allez voir plus tard que la trace finalement m'a servi. Donc bah voilà, là 10 minutes de perdu, quand tu vois que j'échoue au pied du podium pour 10 minutes, ça peut être un peu rageant. Mais voilà pour l'anecdote. Voilà. Passé ces 10 minutes, bah en fait, Sylvain Rotam est revenu dessus, qui effectue une belle course, hein, Sylvain, bon, qui est un inconnu aux yeux du grand public, mais on s'entraîne ensemble sur Chambéry parfois, et voilà, il a fait dans le top 10 de la Saint-Élion, donc c'est pas un gros nul, hein, loin de là. Puis surtout, il est dur au mal, hein, le mec est pompier de Paris, ouais, c'est pas trop une tarlouse, quoi. J'en profite pour le dire à l'audio, parce que, pour avoir dit, je crois que, je sais plus, c'était Tapette, Instagram Facebook m'a banni une journée. Alors, ah non, j'avais ta fiole, je sais plus. J'avais mis ça sur un post de casquette verte pour faire une blague potache. Et bah, Facebook n'avait pas aimé ma blague potache. Ils n'avaient pas compris le sens, ces imbéciles. Donc, ouais, Sylvain me rattrape. Et puis, en fait, je lâche immédiatement dans la descente parce que j'allais très très vite à ce moment-là. Et il revient un peu plus tard, au niveau du ravitaillement d'Aleras. En fait, je vois que finalement, il n'était pas si loin et il revient dans la montée après. Parce qu'avec ses bâtons, bah, ce bourrin, il trottinait avec les bâtons et il allait beaucoup plus vite que moi qui me forçait à courir. Donc c'est là que dans la conclusion, vous allez voir, je vous dis, il faut prendre les bâtons hein, pour cette course. Celui qui prend pas de bâton fait une erreur. Hein. Après, il fait ce qu'il veut, mais il fait une erreur. Et donc, Sylvain bah, me rattrape. Et à ce moment-là, bah, je décide d'allier mes forces aux siennes. Donc on discute, ça nous divertit un peu, ça fait passer le temps. Quand c'est un plat ou un faux plat, je me mets derrière lui et il m'entraîne. Quand c'est un peu raide, je marche assez vite devant lui et il me suit. Et quand c'est en descente, pareil, j'ouvre la voie et il me suit. Donc, superbe alliance entre nous deux. Et malheureusement, à la deuxième grosse boulette de ma part, celle-ci m'éjectera définitivement du podium. On arrive au ravitaillement du kilomètre du lac du Bouchet. Et en fait, Sylvain, c'était sa première vraiment longue distance. Hein. À part la Saint-Élion, il n'avait rien fait. Il était venu aux Canaries, mais il avait eu une gastro la veille de la course. Donc le pauvre, il est resté à l'hôtel à faire caca pendant que nous, on faisait la course. Et là, pour une fois, il est plutôt en forme et il réussit sa compétition. Et en fait, il avait peur que ça revienne de l'arrière. Et je lui dis, mais là, Sylvain, c'est le kilomètre 95. On court à 11 km/h sur le plat. Franchement, derrière, je vois pas qui va revenir. Encore, on serait sur l'UTMB, t'as toujours un mec très fort derrière toi qui va revenir. Là, c'est pas trop le cas quand même, hein. Sans porter préjudice à nos poursuivants. C'était des cotitras qui tournaient autour de 750. Ça va pas vous chercher quand vous courez à 11 km/h sur le plat au kilomètre 100. Donc, je lui dis, bah, calme-toi, hein, tranquille, hein, on va aller jusqu'à l'arrivée, on va faire 3 et 4. Hein. Et je repars sur un Vito, je repars un peu avant lui, parce qu'il voulait se poser, boire un coca, repartir, voilà, l'esprit libre, et se dire, il me reste les 30 dernières bornes, allez, ça y est, j'y vais. Et je repars avant lui, parce que moi j'ai pris mes deux flasques et mes deux compotes, et puis c'était bon. Hein. Et tu vois pas qu'un kilomètre plus loin, on traverse une route en descente, donc j'arrive très très vite, hop, je traverse la route et j'enquille dans le chemin, on avait le soleil dans les yeux, et en fait j'ai pas vu. J'ai pris un chemin qui était légèrement en parallèle de celui qui était indiqué par le balisage. Donc moi j'ai juste vu le balisage sur ma droite, mais j'ai pas vu qu'il y avait deux fanions pour passer entre. Donc je suis passé un peu à gauche, et j'ai enquillé sur un chemin. Et au bout de 250 mètres, ma montre a bipé. J'ai fait « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Le temps de courir dans le chemin en descente, parce que je courais assez vite. La montre a rapidement indiqué que j'étais à plus de 500 mètres de la trace. Allez, retour en arrière. Et on revient sur le chemin. Donc là, finalement, la trace m'a servi. Tout à l'heure, elle m'a desservi. Et ce coup-ci, elle m'a servi. Donc, va savoir. Et je reviens sur la trace. Et en fait, bah, Sylvain, entre-temps, était passé. Et malheureusement, j'ai eu beau forcer hein, pendant une dizaine de kilomètres. Malheureusement le père Sylvain bah, je le reverrai jamais parce qu'en fait lui pendant 10 km a cru que j'étais devant donc il a envoyé du gaz hein, parce qu'il voulait me revenir dessus pour qu'on finisse ensemble. Il s'est dit merde, maintenant que je me suis bien arrêté au ravito, je vais me forcer un peu pour revenir sur Hugo et qu'on finisse ensemble, ça va être sympa. Et en fait j'étais derrière lui et ça il le savait pas. Quand les gens l'encourageaient, ils pensaient que c'était une connerie. Quand il lui disait troisième, ils se sont dit « Mais ils sont cons, ils ont oublié un mec devant. » Ce qui arrive souvent, hein, donc il ne s'est pas inquiété. Et en fait, quand il arrive au ravitaillement à Saint-Christophe sur Dolaison, là où il reste 14 bornes, bah on lui dit qu'en fait, Hugo n'est pas passé. Donc, il ne pouvait pas savoir. J'étais 3 minutes derrière, mais il ne pouvait pas le savoir. Parce que personne ne savait où j'étais. Donc, est-ce que je m'étais blessé? Est-ce que je m'étais perdu? Est-ce que j'étais à Tataouine-les-Bains? Du coup, qu'est-ce que tu veux? Il s'est ravitaillé comme de d'habitude, et puis il est reparti, quoi, hein. Il n'a pas attendu, parce que t'attends, puis finalement c'est un autre mec qui revient, donc voilà, tu ne pouvais pas attendre, et du coup, mon Sylvain, il est reparti sans moi, et moi j'étais à la peine derrière, et à un moment donné, j'y arrivais quand même vraiment plus, c'est ce que je raconte là sur la fin, j'y arriverais vraiment plus, et lui a creusé encore un peu l'écart, parce qu'avec ses bâtons, je pense qu'il a pas trop mal marché sur la fin de course, là où moi j'ai quand même bien capitulé. Hein. Je crois que l'effort mental que j'ai fait du kilomètre 70 à 95, là cette fois-ci j'ai eu beau utiliser toutes les stratégies mentales, ça a bâché. Il y a quand même des limites hein, au psychique. C'est un outil formidable, mais ça ne fait pas tout. Donc voilà, je vous ai mis en conclusion mon petit bilan, parce que bah, tout n'est pas acheté. là-dedans. Et puis si je reviens, ce qui est possible, parce que j'ai bien aimé la course quand même, eh ben, y a des choses à faire avec les bâtons, avec cette fois-ci des points horaires à respecter au ravitaillement qui sont encore mieux affinés, hein, parce que là au début on tâtonnait un peu. On était à plus ou moins 5-10 minutes à chaque fois, donc là ça y est, c'est affiné. Et puis bah quand même, hein, ce qui a un petit peu fonctionné, hein, c'est-à-dire quand même ce ravitaillement, ce changement de chaussures, voilà, des choses qui sont rodées maintenant pour l'avenir, avec des plans simples à appliquer à chaque fois sur chaque ultra. Voilà, on voit que ça c'est simple, efficace et ça fonctionne. Allez, je vous laisse là-dessus, le document à lire est quand même beaucoup plus intéressant, mais l'audio, pour ajouter quelques petites anecdotes, fait du bien, je pense. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être les motivations qui vont me pousser à participer à l'UTMB, malgré la très forte fatigue du moment. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh oui, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tous ceux qui participent à l'UTMB, bah là, en ce moment, soit ils sont très en forme en réussissant une course, en se disant « putain, génial, je suis en forme », soit ils sont à la ramasse, un peu comme moi, en se disant « merde, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Et du coup, bah, tout le monde ne va pas avoir la même stratégie au cours des mois de juillet et août. Et c'est pour ça que maintenant que je me suis entretenu un peu avec le coach, que j'ai fait un point aussi tout seul, je vais vous dire ce qu'on envisage. Allez, salut !